Le nouveau mois de Marie. Quatrième jour. Nativité de la Très Sainte Vierge. Quelle est celle qui s'élève comme une aurore naissante, brillante comme la lune, unique comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Cantique, chapitre 6, verset 9. Ah ! Réjouissez-vous, enfant infortuné d'Adam. Commencez à lever la tête, car votre rédemption approche. Mon cher Théotime, quelle est grande la joie d'un voyageur, égaré au milieu d'épaisses ténèbres. Lorsqu'après avoir erré longtemps hors de sa route, sans savoir où il pose le pied et au risque de périr 100 fois, tout à coup il voit paraître l'astre de la nuit, dont la douce lumière éclaire ses pas et le rassure dans son effroi. Quel est le transport d'un infortuné captif, retenu longtemps dans une sombre prison, lorsqu'enfin il voit entrer par les tristes soupiraux de son cachot les premiers rayons du jour marqués pour sa délivrance? Telle et bien plus vive encore doit être la joie de la terre à la naissance de Marie, cette divine aurore, cet astre consolant, précurseur du divin soleil de justice. Postérité malheureuse de coupables parents, s'écrie saint Bernard. Un homme et une femme nous ont fait de grands maux, mais un autre homme et une autre femme, un homme Dieu et une vierge mère de Dieu, nous ont bien dédommagés. Si l'heureuse nouvelle de la naissance de Marie fut portée dans les limbes, au sein de l'ancienne loi, comme nous n'en pouvons pas douter, de quelle joie ne durent-ils pas tressaillir en voyant ce jour du Sauveur, qu'il saluait de loin, selon l'expression de l'apôtre? Venez, ô mes premiers parents, s'écrie encore saint Bernard, venez, ô saint patriarche, saint prophète, venez dans la maison de Joachim et d'Anne, maison plus fortunée que celle d'Obédédom, et que le temple même de Jérusalem, puisqu'elle possède la véritable arche d'alliance. Venez autour du berceau de la reine du ciel et de la terre. Voilà l'étoile de Jacob, le soleil du salut, la suivra de près. Disons-lui d'une commune voix, avec la Sainte Église, votre naissance, ô Vierge Mère de Dieu, a été une nouvelle de joie pour toute la terre, parce que c'est vous qui devez enfanter le Sauveur qui nous délivrera de l'anathème et nous comblera de bénédictions. Châtiment du péché. Méditation. Mon cher Théotime, si la naissance de Marie réjouit la terre parce qu'elle annonce la ruine de l'empire du péché, le péché désole le monde entier par tous les maux dont il est la source. Considérons ses funestes effets. 1. C'est le péché qui a perdu Lucifer et les anges imitateurs de son orgueil et partisans de sa révolte. Au sortir des mains de leur Créateur, je vois ces purs esprits tout resplendissants de gloire. Ô Dieu, quel éclat, quelle beauté, quelle admirable perfection! Ô Lucifer, comment donc es-tu tombé du ciel? Ah, mon cher Théotime! Au lieu de rendre grâce à Dieu, il se contempla lui-même avec orgueil, et enivré de sa propre excellence, il dit en son cœur, « Je monterai, je serai semblable au Très-Haut. » Il le dit, des milliers d'anges rebelles le dirent avec lui. Sur le champ, quel bouleversement, quelle effrayante catastrophe! Ces astres se détachent du ciel, ils tombent et l'enfer est créé pour les recevoir. Mais mon Dieu, oserais-je vous dire, ils sont en plus grand nombre que les grains de sable des rivages de la mer. N'importe, dit le Seigneur, ils ont tous péché, ils seront tous punis, le nombre des coupables n'effraie pas ma justice. Mais mon Dieu, c'est le plus bel ouvrage de vos mains. Il est vrai, mais ce bel ouvrage est maintenant souillé de la tache du péché. Mais enfin, ce n'est qu'un seul péché et un péché de pensée. Un péché? Ignores-tu donc, ô homme, qu'un péché, un seul péché, attaque toutes mes perfections, qu'un seul péché, dès qu'il est grave et volontaire, suffit pour rendre celui le commet, l'éternel objet de mes vengeances. Hélas, moi qui ai péché en tant de manière, qui vous ai offensé non seulement par pensée, mais encore en parole et en action, que dirais-je, ô mon Dieu ? Et quand je n'aurai commis qu'un seul péché mortel, cette faute ne me rend-elle pas semblable à Lucifer ? Lui, cependant, n'avait ni la croix ni l'enfer pour le retenir, mais moi, je vous ai offensé à la vue de l'un et de l'autre. Ô Dieu de miséricorde, quelle bonté de m'avoir épargné, de m'avoir attendu jusqu'ici. 2. Mais voici un nouveau spectacle, c'est le paradis terrestre, jardin de délices où règne un printemps éternel, séjour de paix et de bonheur. Le roi de ce bel empire, c'est Adam. Adam, chef-d'œuvre des mains du Créateur, objet privilégié de son amour. Adam, innocent et heureux. Autour de lui, tout le reconnaît comme maître et lui obéit avec amour. Il jouit d'une santé inaltérable. Sa jeunesse doit être immortelle. Les perfections de la divinité se réfléchissent dans son âme, comme dans un miroir sans tache. Quelle clarté dans son intelligence, dans son cœur, quel vif sentiment de reconnaissance, quel empire sur ses passions, quelle douce pente le porte à la vertu. Tant de bonheur, il peut, par sa félicité, le transmettre à ses descendants. Pour lui, et pour eux, ce n'est que l'avant-goût d'une félicité infiniment supérieure de la félicité de Dieu qu'ils doivent partager un jour. Mais hélas, quelle triste révolution! Adam désobéit à l'ordre de son Créateur et son Dieu. Aussitôt, tout est bouleversé en lui, autour de lui. Dans son âme, le dérèglement des passions et ses deux plaies profondes et mortelles, l'ignorance et la concupiscence, les passions auxquelles le cœur de l'homme est en proie, la colère, les dépits, les emportements, les jalousies, les haines et ce déluge de maux qu'elles entraînent à leur suite, les divisions, les guerres, les meurtres, les parricides, l'ignorance qui remplit l'intelligence de l'homme des plus épaisses ténèbres. La concupiscence, ce penchant furieux pour le mal, qui rend le cœur humain si fécond en perversité et qui fait gémir les plus saintes âmes, sources funestes qui ont inondé la terre d'erreurs et de crimes. Et pour en citer un exemple frappant, qui ont fait de la France pendant la Révolution un théâtre d'extravagance et d'horreur. Autour de lui, tous les fléaux, tous les maux qui assiègent l'homme de toutes parts, les grêles, les tempêtes, les tremblements de terre, les famines, les incendies, les pestes, enfin la mort, cet affreux salaire du péché. Stipendia peccati mors. Romains chapitre 6 verset 23. Voilà jusqu'à la fin du monde. Tant qu'une goutte de sang d'Adam coule dans les veines du dernier de ses enfants, voilà les suites d'un péché. Péché malheureux, moment fatal. L'ange, réprouvé pour une pensée. L'homme, maudit pour un fruit. Quelle horreur ! N'auriez-vous pas d'une liqueur empoisonnée, dont une goutte suffirait pour répandre la peste dans tout l'univers ? Et moi, je le commets si aisément, ce péché. Je le multiplie depuis si longtemps, je l'oublie si facilement, je m'en confesse si froidement, je m'en repens si faiblement, j'y retombe si promptement. 3. Descendons plus avant, mon cher Théotime, descendons jusque dans l'abîme que le péché a creusé. Contemplez avec moi ces brasiers éternels, cette cuve immense où se foule le vin de la colère de Dieu, selon l'expression de l'Apocalypse, ces infatigables et impitoyables bourreaux. Dieu vous préserve, mon fils, de tomber entre leurs mains. Voyez la rigueur avec laquelle votre péché est puni. Oui, votre péché, celui qui vous domine, quel qu'il soit, le blasphème, l'impureté, l'intempérance. Regardez, vous verrez des milliers de damnés qui n'en ont pas d'autre à expier que le vôtre. Et ce péché les rend à jamais les victimes toujours vivantes d'un feu éternel. Méditez bien ces paroles. Un feu éternel, un feu, quoi de plus douloureux, éternel, quel éternel et interminable avenir. Un feu, en comparaison duquel le nôtre n'est que fumée, éternel, en comparaison de cette éternité, des milliers de siècles ne sont qu'un point, un feu qui s'insinue jusque dans les entrailles, jusque dans la moelle des os. Ne réprouvé, en est tout pénétré. Il ne voit que le feu, ne touche que du feu, ne respire que du feu. Le feu sort de ses yeux, de ses oreilles, de sa bouche, de tous ses pores. Éternel, non pas 100 ans, 1000 ans, des millions d'années, mais toujours, toujours, tant que Dieu sera Dieu. Joignez ensemble ces deux mots. Un feu éternel, où il faudra brûler, brûler sans cesse, brûler sans relâche, brûler sans fin, brûler, à jamais brûler. Voilà toute l'occupation des réprouvés dans l'enfer, jour et nuit, du matin au soir, d'une année à l'autre, de siècle en siècle, brûler. Le croyez-vous? Encore une fois, le croyez-vous? Vous le croyez, dites-vous? C'en est donc fait, vous ne pécherez plus. Memorare novissima tua et in aeternum non peccabis. Ecclésiaste chapitre 7 verset 40. Promettez-le à Marie et demandez-lui son secours pour être fidèle à votre promesse. Exemple. Au rapport du célèbre Gerson, chancelier de l'Université de Paris, Thomas de Quatimpré, qui, de religieux de l'ordre de Saint-Dominique, devint évêque suffragant de Cambrai. Étant écolier, il se lia étroitement avec un jeune homme de qualité, qui possédait, au plus haut degré, toutes les vertus qu'on peut désirer à cet âge. Heureux, si ce dernier eût conservé jusqu'à la fin le trésor de son innocence. Mais par un malheur, hélas, trop ordinaire aux jeunes gens, il s'unit d'amitié avec un condisciple livré aux plus honteuses passions, qui alluma dans son cœur le feu impur dont le sien était dévoré. Bientôt, entraîné par le mauvais exemple, il se jeta lui-même dans tous les désordres, surpris, affligé d'un changement si subit et si déplorable, ses amis, et Thomas avec eux, le pressèrent tendrement, le conjurèrent de rentrer dans la bonne voie qu'il avait quittée. Ils parlèrent en vain, leurs prières, leurs larmes furent inutiles. Dieu parla à son tour, mais il le fit de cette voix dont le son est plus terrible que l'éclat du tonnerre. Une nuit, qu'il dormait profondément, il fut saisi d'une frayeur mortelle, qui l'ayant réveillé, lui fit jeter des cris d'horreur. Toute la maison est en mouvement. On se hâte d'aller à son secours, on lui demande son mal. Il ne répond que par des nouveaux cris. On appelle un prêtre qui exhorte à penser à Dieu et à lui demander le pardon de ses péchés, mais ce fut inutilement. Le zélé pasteur redouble d'instances et joint les larmes aux plus touchantes paroles. Le moribond jette sur lui des yeux effarés et lui dit d'une voix lamentable « Malheur à celui qui m'a séduit. C'est en vain que j'invoquerai le secours de Dieu. Je vois l'enfer ouvert pour me recevoir. » Un moment après, se tournant de l'autre côté, comme pour se dérober à de nouvelles exhortations, il mourut en désespéré et commença en ce monde la cruelle carrière qu'il allait continuer en l'autre. Voilà, Théotime, ce que fait le péché, mais voilà aussi ce que font les mauvaises compagnies. Autre exemple. Ce premier exemple est terrible, en voilà un second qui glace le sang jusque dans les veines. En note, il est indiqué. Ce fait a été plusieurs fois raconté par M. Humbert Ancelin, qui, après s'être démuni de son évêque de Tulle, se retira à Saint-Lazare, où il est enterré. Un jeune écolier passait pour un modèle de sagesse et de piété. Il fréquentait les sacrements et le faisait d'une manière édifiante. Comme il allait un dimanche matin à l'église pour y faire ses dévotions à l'ordinaire, il eut le malheur de rencontrer deux de ses camarades qui n'étaient pas, à beaucoup près, aussi vertueux que lui. Ceux-ci l'invitèrent à déjeuner avec eux dans une de ces maisons qui sont le refuge de l'oisiveté et souvent l'école du libertinage. Il s'en défendit d'abord hautement. On revint à la charge, il tint encore ferme. On lui fit une espèce de violence. Il y entra enfin, comme Alype, dans l'amphithéâtre. C'est-à-dire qu'il y alla, moins qu'il n'y fût entraîné. On se mit à table, il but d'abord par force, peu à peu avec goût. La raison s'altéra insensiblement. Dans cette circonstance fatale, un objet séduisant, et qui ne demandait qu'à séduire, attacha ses yeux et le fit tomber dans le plus honteux des crimes. Que vos jugements sont terribles, ô Dieu, que vos voies sont impénétrables. Le coupable est surpris et expie, percé d'un fer meurtrier, dans l'acte même de l'inéquité. Les deux disciples de cet infortuné jeune homme, touchés, saisis d'une fin si funeste, renoncèrent au monde, se retirèrent dans un ordre sévère pour s'y livrer à toutes les austérités d'une vie pénitente et pleurer jusqu'à la fin de leur jour. Une mort aussi déplorable et qui était le résultat de leurs conseils perfides. Écolier chrétien par M. Collet, prêtre de la Congrégation de la Mission. Pratique. Prenez la résolution de ne jamais vous coucher dans un état où vous ne voudriez pas mourir. S'endormir avec un péché mortel sur la conscience, c'est s'exposer à se réveiller en enfer.